prophète Michée, chapitre 4, verset 2. Oh, on peut lire le 1, ça ne va pas nous étouffer. Michée 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront en foule. Des nations s'y rendront et diront « Venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, tu nous élèves jusqu'à toi en Jésus-Christ pour recevoir tes instructions, tes lois, tes commandements, tes promesses, ta parole. Que ce matin ton esprit nous aide à la recevoir. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Dans ma jeunesse, il n'y a pas très longtemps, nous chantions un petit chœur, un petit chant, je ne sais pas si certains le connaissent. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous apporter une méditation à partir du sermon sur la montagne, évidemment. Je suis presque persuadé que Matthieu devait avoir Michée en tête quand il a rédigé son évangile et qu'il nous a présenté le premier des cinq grands discours de Jésus qui structurent son évangile, le sermon sur la montagne. Je poursuis au fond la narration que j'avais commencée il y a quelque temps. Je le fais avec d'autant plus de liberté que Jésus lui-même s'est prêté à cet exercice. Lorsqu'il nous parle de Dieu sous l'image d'une femme qui met du levain dans sa farine, ou qui bouleverse sa maison pour retrouver une drachme perdue. Elle était grecque, celle-là, je crois. Ou bien sous l'image d'un berger. Vous savez que les bergers n'avaient pas bonne réputation dans la société de Jésus. Il ose parler de Dieu sous cette image-là. Donc il a une liberté de parole dans laquelle je m'inscris aussi, peut-être. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une entreprise de Dieu, bien sûr. C'est Dieu qui agit, qui est à l'œuvre et qui a remis cette œuvre entre les mains de Jésus, le jeune directeur de la grande entreprise. Je vous avais dit qu'il inviterait ses collaborateurs à un séminaire de formation. Ben, nous y voilà. Il avait beaucoup tenu à ce séminaire de formation pour tous ses nouveaux collaborateurs. Lors de sa propre formation, il avait étudié avec soin les archives. Une biographie l'avait particulièrement impressionné. Celle d'un des premiers responsables de l'entreprise qui vécut il y a très très longtemps. Celui-ci avait établi une sorte de loi cadre étonnamment moderne, une loi capable de créer les conditions d'un développement sûr et exemplaire. Une loi de liberté, même si cette expression semble paradoxale. Quand on parle de loi, on a du mal à parler ensuite de liberté. Et pourtant, c'est ça. Vous aurez reconnu, je pense, les Moïse. Hein, voilà. La particularité de ce document était sa brièveté, sa concision. 10 paroles, 10 petites phrases seulement. Aussi voulut-il s'en inspirer. La première réunion du séminaire pour la nouvelle entreprise eut lieu ce jour-là à 10 heures précises. Pardon. Le directeur avait donné rendez-vous à tous ses collaborateurs dans un chalet sur la montagne qui dominait le lac. Il estimait que prendre un peu de hauteur permettrait non seulement de jouir d'un panorama grandiose, mais aussi favoriserait une approche globale des choses. La grande entreprise n'exigeait-elle pas qu'on ait une vision la plus large possible ? Tous étaient présents et attentifs. Ils venaient de tous les milieux, artisans, intellectuels, patrons pêcheurs. Il y avait même un inspecteur des impôts. Celui-ci ne se séparait jamais de sa tablette. Il s'installa confortablement de manière à prendre des notes sur son clavier. Il ne voulait pas perdre une miette du discours. Bien que le travail ait déjà commencé et connu des débuts prometteurs, la convocation spécifiait qu'il ne serait pas encore question d'objectifs précis, mais de grands principes d'action, de grandes orientations et surtout de l'état d'esprit qui devrait présider à l'action commune, seul gage de réussite. Ce qui compte, pensait le directeur, n'est pas la quantité de travail abattu, mais l'esprit dans lequel on le fait. Le directeur y attachait une importance primordiale. Il ne voulait surtout pas que son entreprise ressemblât si peu que ce soit à celle de la concurrence, dont je vous avais parlé la dernière fois aussi. Cette entreprise de si désastreuse mémoire, celle-ci portait la responsabilité d'avoir tout faussé. Le marché, la main-d'œuvre, les ressources, les bénéfices, tout était artificiel, injuste, démesuré. Et malheureusement, tout le monde avait mordu à l'hameçon, comme on dit. Aussi avait-on grand besoin de retrouver le bon sens et surtout de rétablir la justice dans les échanges, dans les conditions de travail, etc. Objectif prioritaire, la dignité de la personne humaine. Il souhaitait donc avoir autour de lui une équipe soudée qui ait parfaitement intégré l'esprit de la maison. Il s'assit de manière à être vu et entendu de tous. Il y avait dans son regard, comme dans la tonalité de sa voix, une sorte d'allégresse à peine contenue. Serait-elle contagieuse, au point de les inspirer, de les porter malgré les obstacles et les difficultés qu'ils rencontreraient. Nul n'aurait pu le dire ce jour-là, mais il semble bien qu'elle est encore de beau reste ici et là, même à Kevin. Le silence se fit. Après quelques mots de bienvenue, il évoqua l'avenir de l'entreprise. En effet, ils avaient besoin de prendre conscience qu'il faudrait travailler dans le long terme. Et de viser loin, l'entreprise étant appelée à couvrir le monde entier. Après l'accueil et l'introduction, le directeur déroula donc une sorte de charte en 10 points, comme son ancêtre, Moïse, qui dessine le profil du parfait collaborateur à tous les échelons de la nouvelle entreprise. Ils eurent alors la surprise de leur vie. Premièrement, et ce fut pour le directeur une manière d'annoncer la couleur, ils devaient être au clair sur leurs propres limites. Ils sont pauvres. L'homme au portable sursauta. Lui qui avait vu tellement d'argent passer entre ses mains, se demandait bien comment on pouvait ainsi élever la pauvreté en vertu. L'orateur poursuivit. Et quand on se sait pauvre, on est ouvert pour recevoir. C'est plutôt bien, non ? Pas de suffisance, de gens blasés, mais des aventuriers mendiants de l'esprit, en quelque sorte, ouverts, curieux, un peu comme ces enfants qui insatiablement demandent « pourquoi si, pourquoi ça ?» Et là, je vous lis le verset 3 de Matthieu 5. « Heureux les pauvres de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Je vous le relis dans la version en français courant. « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. » Une petite précision, dans nos versions, nous avons « bienheureux ». Bienheureux, bienheureux. Et le latin traduit béati, béati, la béatitude, les béatitudes. Ça donne une image un peu, comment est-ce que je pourrais qualifier ça ? Club Med, bienheureux. Non, André Chouraqui, que certains connaissent, traduit ce mot par allégresse. Je vous ai parlé tout à l'heure d'allégresse. Allégresse des pauvres de l'esprit. Allégresse, c'est un mot, par exemple en musique, quand on dit allegro, hein, ça veut dire que ça marche, hein, ça marche vite. Et dans cette idée-là, Chouraqui le dit dans un de ses commentaires, ce bienheureux, allégresse, comporte l'idée d'un pas en avant. Debout, en marche, c'est aussi sa façon de traduire dans une autre édition de sa traduction du Nouveau Testament. Allégresse, en marche, les pauvres de l'esprit. Vous êtes assis, mais vous êtes en marche. Nous sommes en marche. Dans le deuxième point, il affirma qu'ils auront l'occasion de souffrir et même de connaître la saveur des larmes. Mais il sera pourvu à leur défense. Ils recevront, en temps et en heure, toute la force et l'intelligence qui leur seraient nécessaires. Qu'ils n'aillent pas se faire du souci pour leur subsistance ou pour ce qu'ils auront à dire à leurs éventuels adversaires. Il est vrai que, comme au directeur lui-même, on ne leur fera pas de cadeaux. Mais au bout du compte, ils seront mis en possession de leur lot. Et là, je vous lis le verset 4. Matthieu 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, Dieu les consolera. Je voudrais faire remarquer, donc il ne s'agit pas de gens qui pleurent parce qu'ils ont mal ou parce que. Mais à cause du règne qui vient, à cause du nom qu'ils portent. N'est-ce pas ? Et Dieu sait si le chemin de l'Église est un chemin de pleurs à travers l'histoire. C'est quand elle n'a plus voulu pleurer et qu'elle a voulu régner que l'Église a trahi sa mission avec Constantin et qu'elle est devenue une puissance régnante et qu'elle a fait pleurer les autres. Abordant le troisième principe, il leur dit que dans leur travail, il n'y aurait pas de place pour les rambots, les têtes brûlées. À l'époque, nous ne l'avions pas encore tous compris, mais le directeur lui-même avait décidé de faire une croix sur sa sécurité personnelle. Il pouvait perdre la vie. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait besoin d'eux. pour qu'il prenne la suite des opérations après sa probable disparition. Mais qu'eux aussi doivent s'exposer, ça les défrisait un peu. Pourtant, ils n'auraient rien à craindre. « Votre sécurité sera assurée, leur dit-il, et vous atteindrez la totalité de vos objectifs, malgré tout ce qui pourra vous arriver. » Et je vous lis le verset 5. « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. » Je dirais ça un peu autrement. La bonne nouvelle de Jésus, c'est l'annonce du non, de la non-puissance, de la non-violence. Pas de coercition pour obtenir, comme l'a fait une certaine inquisition à une époque, des conversions, convertir les juifs d'Espagne, puis du Portugal, sous la menace du feu et de l'épée, les conversos. Ce fut une terrible époque. À quel point, je me dis des fois, mais à quel point nous avons, enfin, la chrétienté a pu trahir l'Évangile. Au quatrième principe, il les pressa d'épouser parfaitement son idéal de justice, même si cela pouvait leur sembler utopique dans la confrontation au monde plein de mensonges qu'ils allaient devoir parcourir. « Ne vous laissez pas détourner du chemin, s'écria-t-il. Sinon, vous risquez de tomber au piège d'illusions mortelles. Il n'y a pas d'alternative. Mais soyez certains que la victoire est de votre cause, elle dépassera vos espérances. À celui qui peut faire, au-delà de tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire. » Dixit, Paul. Et je vous lis le verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, de vivre de justice, car Dieu exaucera leurs désirs. » Le grand patron attachait une très grande importance au cinquième point. Aussi leur demanda-t-il d'avoir, les uns pour les autres, une écoute attentive et bienveillante. De même que pour quiconque. Laissez-vous atteindre par la fragilité d'autrui. N'êtes-vous pas fragile, vous aussi? Ne méprisez pas les petits employés. N'enviez pas les chefs de service, et surtout le client d'abord. Ça vous choque? Moi, quand j'ai écrit ça, je pensais à Paul qui disait « Je me dois aux Grecs, aux Juifs, aux savants, aux ignorants. » Paul avait une dette, je leur dois l'Évangile. Ils sont mes créanciers. Le mot « client » est un peu maladroit. Mais n'empêche, si nous apprenions à regarder la société dans laquelle nous sommes comme notre créancier, nous lui devons l'Évangile. Vous me répondrez peut-être « oui, mais il n'en veut pas ». Et pour cause. Parce que si elle a en mémoire l'histoire de l'Église, des Églises, évidemment, je comprends qu'il n'en veuille pas. Et je pense que nous avons beaucoup à prier pour que l'état d'esprit de ceux que nous croisons jour après jour change, s'ouvre, afin qu'ils puissent accueillir ce que nous aimerions tellement partager avec eux. Nous le leur devons, le client d'abord. Pour vous aider à vous en souvenir, le point 5 invite à être comme les 5 doigts de la main. Solidaire en sympathie. Vous êtes tous très sympathiques. J'ai presque envie de dire, vous êtes symphoniques. un pasteur vaudois d'origine indienne disait, il y a les symphoniques et il y a les schismatiques. Les schismatiques disent, nous avons raison, ils ont tort. Les symphoniques disent, ils ont leur raison, nous avons aussi des torts. Les cinq doigts de la main en symphonie, en sympathie. Si l'un des doigts se blesse, n'avez-vous pas mal à toute la main ? De plus, je vous le garantis, le grand patron est la bienveillance même. Je vous lis le verset 7. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Il poursuivit en énonçant le sixième principe. Vous savez qu'on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. La nouvelle entreprise ne s'accommode pas de diversion ni de dilettantisme. Comme je l'ai été moi-même, vous serez certainement sollicité par le chef de la concurrence ou par l'un de ses sous-fifres. Et croyez-moi, ils savent s'y prendre. N'ont-ils pas soudoyé le tout premier représentant de notre espèce ? Où ça ? Au jardin d'Éden. Voilà. Non, mais je regarde si vous suivez. Hein. Tenez bon, même s'il vous en coûte, et vous aurez l'honneur d'être reçu par le grand patron en personne. Et je vous lis le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Une petite précision encore. La pureté, ici en question, n'est pas celle de l'absence de défaut, mais d'avoir un cœur entier, non partagé, non tiraillé. C'est dit sous une autre forme aussi dans l'Apocalypse. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, etc. Donc voilà, la pureté en question, c'est d'abord, ça n'exclut pas, bien sûr, la pureté propre, mais c'est le fait d'avoir un cœur entier, être un soi-même. Le septième point arriva. Vous savez combien le grand patron attache de l'importance à ce que les humains mènent une vie paisible et tranquille. Ça, je l'ai copié chez Paul. Parce qu'il veut vraiment que tous bénéficient de l'entreprise nouvelle pour laquelle j'ai été choisi. Sachez régler les conflits qui pourraient surgir au milieu de vous. Et si possible, aidez aussi à apaiser ceux qui déchirent le monde dans lequel vous allez travailler. En définitive, les guerres ne profitent à personne. Peut-être sauf aux marchands d'armes, mais car elles entravent les communications en dressant des frontières de mépris, de peur et de haine. Et puis vous avez le privilège de connaître le secret du grand patron. Pour lui, il n'y a plus de frontières séparatrices. Il s'est pris d'amour pour n'importe qui. Alors, ressemblez-lui. Et je vous lis le verset 9. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Encore trois points qui n'en font qu'un en réalité. Vous n'ignorez pas que la nouvelle entreprise n'est pas si nouvelle que cela. En fait, on y travaille depuis la nuit des temps. J'allais presque dire dès avant la fondation du monde. On y travaille afin d'acheminer toutes choses et de faire coïncider rien moins que le ciel et la terre. Ça ne résonne pas dans votre tête que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est l'entreprise divine. Et Dieu y travaille dès avant la fondation du monde. Il n'y a pas renoncé. Seulement chaque chose en son temps, Nous avons le privilège, ce matin, d'être réunis pour la mise en œuvre concrète de ce qui n'avait été que rêvé, pressenti, salué de loin par d'autres. Mais dès le début, tous ceux qui avaient été concernés ont rencontré l'incompréhension, le doute, la violence même de leurs contemporains. Et ça continuera encore longtemps comme ça, au point même que vous serez parfois tenté d'abandonner. Mais ne vous découragez pas. Au contraire, allez toujours de l'avant et soyez fiers d'appartenir à l'innombrable cohorte de ceux qui vous ont précédé et qui recevront avec vous tous une éternelle récompense. La concurrence tient encore le haut du pavé en mains endroits. Elle suscitera des embûches, entravera votre travail, cherchera à vous diviser, à vous éliminer, comme elle a toujours fait. Elle est incapable d'agir autrement. Mais ne vous en faites pas. Vos noms sont déjà enregistrés sur le disque dur du grand patron. Et il saura vous payer en retour, plus largement que vous ne sauriez l'imaginer. Et personne ne sera oublié. Croyez-moi, sans vous, le monde serait plongé dans la nuit la plus noire et son existence serait sans saveur. Et là, je vous lis la fin de cette section de Matthieu 5. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Et pour conclure provisoirement ce premier séminaire, il leur offrit une vue panoramique de l'importance pour le monde, pour la terre, de leur présence, de leur action, de leur courage persévérant. C'est vous, on va lire ça. In fine, ils ne devront pas oublier, ne devront jamais oublier que l'important, c'est la gloire du tout grand maître qui les avait appelés. Et je conclurai en lisant les versets 13 à 16. Là, j'ai que la version seconde, mais ça va très bien aussi. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ainsi que Dieu offre au monde un nouveau culte. Amen.
Merci. Alors, la grande entreprise va bien ?